Europe 1, il est 7h43 et mon invitée ce matin est une journaliste. Elle a été grand reporter, primée à plusieurs reprises, 30 ans sur le terrain. Elle a aussi siégé au CSA. Maimona Interman qui publie « Je n'ai pas su voir ni entendre » aux éditions Hugo Doc. C'est un témoignage, je vous le disais, personnel, sur la tentative de suicide de son mari. C'est aussi une enquête sur une question de société taboue et sur les lacunes de nos systèmes de soins. Une prise de conscience. Maimona Interman, invitée du Tête-à-Tête Europe Matin.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Maimona Interman.
Bonjour Mathieu Béliard.
Je n'ai pas su voir ni entendre, c'est le titre du livre. Ce qui veut dire, même si elle est personnelle, même si elle est intime, qu'il y a des signes qui alertent sur une tentative de suicide.
Il y a des signes, comme toutes ces petites fissures qui se voient, qui s'annoncent, et au lieu d'en faire une addition, on met ça sur le compte de la mauvaise humeur, de la fatigue, oh, on vieillit un petit coup. Et en réalité, si on savait regarder ce qui se passe autour de nous, alors à coup sûr, on en prendrait conscience. Et c'est ça qui manque souvent.
Vous écrivez, on est toujours en contact, mon mari et moi, c'est comme ça depuis 30 ans. Et puis vous décrivez ces derniers échanges de messages avant le geste. Vous lui demandez simplement, banalement, si ça va.
Oui, parce que c'est vraiment de cette façon-là qu'on fonctionne. Et j'étais en train d'écrire mon article pour le Midi Libre. Et je lui dis, ça va mon Lotz? Et je vais faire du thé, et je reviens, et je lis quelque chose que je ne comprends pas, qui n'est pas de lui. Et pourtant c'est lui. Non, ça va pas, ça ne va pas du tout, je t'aime, amour. À partir de ce moment-là, c'était la fin de l'après-midi, j'ai essayé de le localiser, de le joindre, partout, le fixe, le portable, plus rien. Silence radio.
Et vous le retrouverez le lendemain dans sa voiture.
Alors, entre-temps, mon fils Julien, qui est médecin vétérinaire, donc qui connaît un peu le mental des animaux certainement, mais ça ne doit pas être très, 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 très éloigné des humains, m'avait quand même mis sur la piste quelques jours avant en me disant, tu sais, il faudrait quand même faire attention, il n'allait pas bien. Moi, ça, j'étais pas convaincue du tout, et donc quand il est revenu, quand il a vu que le début de soirée était bien entamé, il m'a demandé d'appeler les hôpitaux, Dax, Bayonne, et puis après les gendarmes, et là la machine s'est mise en route.
Ce que vous dites à un moment dans le livre, c'est que dans les derniers moments avant, il ne se plaignait plus.
Exactement. Vous savez, ça m'a fait penser au cyclone chez nous à l'île de la Réunion. Si calme, si pacifié, visiblement avec lui-même. Et lorsque je lui ai dit au revoir pour aller à la gare de Bayonne, deux jours avant, il m'a dit « Oui, oui, je viendrai te chercher, bon voyage. » Tout était faux. Pas intentionnellement, mais peut-être avait-il décidé de larguer les amarres en attendant justement que je parte, que je ne sois pas présente, pour que je ne puisse pas l'arrêter, parce qu'il sait très bien que je me serais déchaînée, si vous me passez le mot. Et heureusement que mon fils étant sur place, il est allé au cimetière, il est allé sur les parkings, il a alerté des amis, il y a eu un élan de solidarité des Basques et des Landais, des voisins, des amis, qui ont pu retrouver sa trace, et c'est seulement le lendemain après l'arrivée des gendarmes, etc. Ce que je voudrais dire, c'est que vous voyez, ce qui nous est arrivé à nous, dans notre famille, ça arrive chaque année, 200 000 fois quand les gens sont enregistrés dans les hôpitaux, plus 40% de gens qui ne sont pas enregistrés. Un homme comme mon mari, s'il s'était réveillé, il était dans le coma, mais s'il avait repris pied, il serait sans doute rentré sans jamais donner signe. On ne comprend pas, on ne peut pas comprendre la dimension de ce problème si on ne regarde pas les questions peur du regard des autres. Les gens ont peur d'en parler. Les personnes concernées, elles-mêmes, et j'ai eu des témoignages. Les entourages. Oh, les entourages. Je ne voulais pas citer à tort ou faussement ce que j'ai écrit. Il y a eu un baromètre de Santé publique France, si vous me permettez.
Allez-y.
Et qui avertit, je cite, qu'un antécédent de tentative de suicide constitue le plus important facteur de prédiction de décès par suicide. Vous voyez que si quelqu'un tente, alors on peut dire qu'il y a un très très grand risque.
Et c'est ça qui est très important.
Il multiplie par 60 le risque de mourir par suicide dans les 5 ans. Mais c'est dingue, pardon, mais c'est fou et on ne fait rien.
Alors je voulais y venir justement parce que c'est essentiel. On peut parler de ce qui pourrait prévenir une tentative de suicide ou un suicide. Mais la réalité, c'est ce que vous dénoncez, l'accompagnement après la prise en charge psychiatrique, puisque c'est de ça dont il s'agit. Là-dessus, il y a énormément de lacunes.
Alors il y a eu un rapport parlementaire en 2019 qui dénonçait déjà cette situation en disant qu'il manquait en France plus de 1000 psychiatres. Il y a eu un énorme problème dans l'organisation des soins de santé en France en faisant ce qu'on appelle la sectorisation. l'information. Évidemment, des médecins comme, je pense à Antoine Pellissolo, ils pourraient vous expliquer ça par le détail. Mais par exemple, vous voyez, moi j'ai essayé, quand tout ça nous est tombé dessus, alors que j'étais partie en reportage dans des endroits où il y avait quand même énormément de violence, de cadavres, et puis enfin j'ai vu des gens morts. Là, ça m'a complètement désarçonné. J'ai essayé d'avoir un rendez-vous, puisque j'habite dans les Hauts-de-Seine, chez les militaires, l'hôpital Percy, parce que je me suis dit, je pourrais leur raconter des choses que je n'ai jamais dites. D'abord, on n'arrive pas à les joindre, puis après, quelqu'un m'a conseillé d'aller voir un des militaires qui s'est installé dans le privé, quand même, ça pose un problème. Ensuite, j'ai eu un contact à l'hôpital Henri Guéraud à Créteil, je suis allée là, et j'ai essayé d'expliquer ma situation à une femme, psy. Elle a dit, mais pourquoi vous me parlez de votre mari? J'ai dit, ça a commencé comme ça. Bon, alors, elle a proposé de faire une thérapie familiale. Mais moi, je voulais commencer par mon cas. Je l'ai mise sur la piste. Je lui ai dit, vous savez, je viens de l'île de la Réunion, il y a beaucoup de violence chez nous. Parce qu'en réalité, ce que j'ai subi comme stress, ça venait de très, très, très loin dans ma vie. Donc, je vais commencer par dérouler ce fil. Pardon, j'étais un peu longue.
Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a une vraie question sociétale, en fait, à travers votre livre. Alors, on pourrait parler de votre mari, mais on parle de vous aussi dans ce livre et des personnes qui entourent ces personnes. Qui commettent des suicides ou des tentatives de suicide. Je prends un autre exemple qui n'a absolument rien à voir, Maimona Hinterman. Dans Libération ce matin, une double page sur le suicide d'une jeune étudiante. Elle avait 20 ans, elle est morte le 15 avril dernier. Élève et professeur, je lis simplement le chapeau de l'article, hein, déplore une prise en charge insuffisante des personnes en détresse et dénonce l'omerta de leur établissement. Il y a tout là-dedans. On n'aide pas, on n'accompagne pas et on se tait. Il y a un silence, il y a ce tabou.
Il ne faut pas en parler, mais ça vient aussi des entourages, des personnes à qui ce sinistre effrayant arrive. Il y a un peu de tout de chaque côté pour que soit entretenue une sorte de chape de plomb. C'est cette chape de plomb qu'il faudrait vraiment soulever. Il y a urgence. Il y a urgence parce que bon, vous avez le courage de passer un sujet comme celui-ci à cette heure-ci, au moment où on est en train de prendre son petit-déj. Mais qui vous dit qu'aujourd'hui, mesdames, messieurs, dans votre famille, il n'y aura pas quelqu'un qui va y aller? Comment vous ferez? Comment ferez-vous? On n'est pas indemne. Moi, je m'étais dit, jamais ça n'arriverait, jamais. Parce qu'on a vécu, mon mari et moi, avec l'idée que si un jour on était trop vieux, qu'on ne pourrait plus, alors là, on partirait la main dans la main. Mais jamais je n'aurais pensé. Puis, mon mari avait connu des désastres dans sa vie, qu'il avait surmonté apparemment la perte de sa fille, la fuite devant l'armée rouge quand il était gamin. Et on a cru bêtement que ça serait colmaté. Mais non, c'est pas colmaté. Et même, il y a un sujet encore plus grave, c'est que j'ai fait vraiment des recherches approfondies en tant que journaliste. C'est que il y a une spécialité qui s'appelle l'épigénétique. C'est-à-dire que c'est la violence de vos parents, deuxième, troisième, jusqu'à cinquième génération, ça entre dans vos gènes. Ça va dans le sperme et dans les ovules. Qu'est-ce que
ça se transmet? Il faut rechercher. Il faut rechercher. Et quand c'est tabou, on ne recherche pas. Il faut lire absolument, Maimona Hinterman. Je vous remercie d'être venu en parler aussi franchement, parce que vous décrivez aussi le tabou des familles. Et quand on dit 200 000 tentatives de suicide par an, il faut aussi entendre. C'est pour ça que c'est pas si courageux. 200 000 familles, ça pourrait arriver à certains. C'est arrivé à certains, certaines de nos auditeurs. Oui. C'est déjà arrivé. Ils se reconnaissent. Et c'est pour ça que je voulais absolument qu'on en parle. Je n'ai pas su voir ni entendre chez Hugo Doc, Maimona Hinterman. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à Europe.
Lisez le livre et il peut aider, accompagner, il peut conseiller aussi. C'est un témoignage et c'est une enquête parce que vous êtes journaliste, je le rappelle. Maimona Hinterman, merci mille fois.